La prison de Chandolon, dans le canton de Genève, a 40 ans d'une histoire mouvementée qui fait de ce lieu d'incarcération préventive un lieu emblématique, plus importante prison de Suisse. Elle fait l'objet d'un nouveau livre signé de l'historien Christophe Vuillemier, qui est notre invité ce matin, et du dessinateur de presse Patrick Tondeux. Chandolon qui véhicule son lot de mots-clés, surpopulation, cohabitation difficile, vétusté, source d'émeutes, mais la prison genevoise est aussi l'exemple d'un lieu ultra sécurisé. Il n'y a plus eu d'évasion depuis 16 ans, c'est à noter. L'occasion avec cet anniversaire d'aborder les conditions de détention en général dans les prisons suisses, leur architecture, on sait que c'est important, ou leur évolution au sein de notre société. Bonjour Christophe Vuillemier.
Bonjour.
Merci d'être notre invité jusqu'à 8 heures. Co-auteur de cet ouvrage, je l'ai dit. Vous aviez déjà publié un ouvrage il y a 10 ans au sujet de Chandolon. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé depuis 10 ans?
C'est le développement, en fait, autour de la prison de Chandolon, d'un certain nombre de nouveaux établissements qui gravitent un petit peu comme des électrons autour du bâtiment historique. C'est devenu véritablement un pôle carcéral.
Pôle carcéral, on appelle ça comme ça, une sorte de hub, un peu comme un aéroport.
Ouais. Si on veut.
Et dans le fond, bon voilà, j'ai cité quelques-uns de ces mots-clés sur population, vétusté des lieux, etc. Émeute, il y a eu encore un décès survenu lundi dernier, probablement un suicide, on ne le sait pas. Est-ce que tout ça a changé en 10 ans ou est-ce que ça s'est péjoré?
La surpopulation s'est développée au cours de ces dernières années. Maintenant, il y a un mieux, évidemment, des mesures ont été prises.
Et un mieux, vraiment?
Oui.
Un moins mal?
Un moins mal, dirons-nous. Mais c'est vrai que la surpopulation est endémique.
Oui, elle est due à quoi? C'est simplement l'exiguïté, la prison est trop petite, il y a d'autres facteurs, comment vous l'expliquez?
Il y a différents facteurs, c'est pas si simple comme ça, on peut développer la question assez longuement. C'est d'abord une politique judiciaire qui mène évidemment à avoir des effets sur la prison, sur le nombre de détenus. C'est ensuite la criminalité elle-même, celle-ci évolue évidemment dans le temps et déploie ses effets inévitablement.
Est-ce que Chandolon est représentatif de ce qui se passe en Suisse? Prison préventive, je disais, c'est la plus importante de Suisse. Ça se passe comme ça dans les autres aussi?
Non, le canton de Genève a une place un peu à part. Hein. Son taux de criminalité est un peu supérieur par rapport au reste de la Suisse. Quant à Chandolon, c'est la prison préventive la plus grande du pays. Alors, évidemment, elle concentre un peu les feux de l'actualité de par ces deux facteurs.
Bois-Mermet, du côté de Lausanne, vous connaissez aussi, vous avez publié un ouvrage à son sujet. Oui. Là, on peut comparer les deux?
On peut comparer les deux à certains égards. Toutes deux sont des prisons préventives, mais elles datent d'époques très différentes. Le Bois-Mermet date de 1905, Chandolon de 1977, donc l'écart dans le temps est assez important. L'architecture n'a rien à voir entre les deux prisons. Et pourtant, on peut considérer un certain nombre de récurrences entre les deux établissements, effectivement.
Quelles sont ces récurrences, Christophe Vuillemier?
Eh bien, déjà la surpopulation dans un cas comme dans l'autre.
C'est moins pire à Lausanne.
C'est moins pire à Lausanne. Elle est beaucoup plus marquée à Chandolon. Et puis c'est les mesures aussi institutionnelles qui ont été développées dans le temps. Au fur et à mesure du développement de cette surpopulation, au fur et à mesure également de la politique qui est menée dans les milieux carcéraux.
Elle n'est pas la même, la politique, sur le canton de Vaud que sur le canton de Genève?
Oui, elle est sensiblement la même. Mais disons qu'il y a des réalités cantonales qui divergent.
Sur la nature de la criminalité, notamment?
Oui.
Pourquoi est-ce qu'on emprisonne les gens encore aujourd'hui, Christophe Vuillemier? C'est vrai qu'on a tous lu « Surveiller et punir » de Michel Foucault, publié il y a plus de 40 ans, je crois que c'était en 1975, qui disait qu'à l'époque, quand on punissait quelqu'un, c'était le châtiment. Maintenant, c'est plus la punition, c'est la normalisation à travers la prison, où on veut surveiller les individus, les mettre dans une boîte, etc., avec une vision panoptique. Ça passe aussi par l'architecture, disait Foucault. Il y avait un long chapitre là-dessus. L'architecture des prisons en Suisse, est-ce qu'elle est uniforme? Est-ce que Chandolon est un cas à part? Qu'en dites-vous de ce sujet-là? Parce que l'architecture, c'est très important.
L'architecture, elle est fondamentale dans une prison. Chandolon n'a rien à voir sous cet angle-là avec la prison du Bois-Mermet. La prison
du Bois-Mermet. 1975,
1905, exactement. 1905. Là, on était dans les belles années du panoptique. Pour rappel, le panoptique, c'est ces établissements qui sont conçus sur la base d'une ancienne usine. C'est les frères Bentham qui avaient développé ce concept-là, où un homme, un surveillant
peut surveiller tout le monde
d'un seul point. Évidemment, c'est assez rationnel, c'est assez efficient pour parler moderne, mais ça implique un certain nombre de problèmes que l'on n'avait pas imaginé dans un premier temps. Et on en est revenu de ce modèle de prison. Il y a d'autres exemples de prison panoptique en Suisse, comme notamment à Lenzburg, mais on en est revenu. Chandelon ne se base pas du tout sur ce modèle-là. Les promoteurs de la prison avaient été chercher des modèles en Scandinavie pour développer ce modèle architectural, très lissé, très froid au début. Ça avait généré d'ailleurs des problèmes. Dès l'ouverture, dans les mois qui ont suivi, un grand nombre de suicides se sont produits parce qu'on critiquait cette prison que l'on considérait extrêmement déshumanisée par rapport à la prison précédente, Saint-Antoine. On a apporté des modifications, des améliorations à cela, notamment dans l'encadrement.
Vous parlez du modèle scandinave, il est toujours le même qu'à l'époque, c'est très froid, c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce modèle scandinave? Parce qu'on le vante beaucoup en matière de social, en matière d'éducation, en matière de prison. Qu'est-ce que c'est ce modèle scandinave? On dit souvent qu'on est très très bien traité dans les prisons là-bas.
On en est aussi un petit peu revenu de cette idée un peu irénique du modèle scandinave. On est bien
irénique
traité
de Irénée la paix, hein?
Exactement.
En grec.
Ce modèle scandinave, il est surtout caractérisé par le nombre de détenus qui est assez limité dans les établissements.
Alors là, on n'y est pas du côté de Genève.
Mais évidemment, voilà, c'est des réalités qui sont différentes. La criminalité en Scandinavie n'est pas la même que dans d'autres pays. La Hollande, c'est pareil. Ce qui fait que les encadrements sont beaucoup plus soutenus. Les pays ont simplement plus de moyens pour se faire, puisqu'ils ont moins de détenus qu'en Suisse. En l'occurrence qu'à Chandelon, et les architectures de ces établissements sont conçues pour un petit nombre de personnes, pas pour 300, 400 personnes.
La solution à la surpopulation, quelle est-elle, Christophe Vuillemier? C'est construire plus de bâtiments, agrandir, ou c'est prendre le problème à la racine du mal et de la criminalité?
Une question éminemment politique, qui là aussi diverge selon les pays. Genève, en l'occurrence, a choisi de suivre l'exemple français, c'est-à-dire en développant ces établissements. On attend de voir la création de l'établissement des Dardelles bientôt, qui viendra prendre place à côté de la prison de Chandelon.
Ça va résoudre les problèmes, certains de ces problèmes?
Ça va peut-être résoudre momentanément un certain nombre de problèmes. Maintenant, on dit toujours que lorsqu'on crée une prison, c'est pour ne jamais la fermer.
Mmh. On dit surtout, si vous ouvrez une école, vous fermez une prison, non?
On dit ça aussi, oui.
Ouais. Ça marche, ça, c'est dans ce sens-là?
Non.
Vous qui êtes historien, non?
Non.
Non, il y aura toujours des prisons.
Il y aura toujours des prisons depuis qu'on connaît cette histoire-là, depuis le Moyen Âge, voire même depuis l'Antiquité, il y a toujours eu des prisons. Et le problème de surpopulation a toujours été un problème, quelles que soient les époques.
Oui, alors Foucault n'a rien inventé, si j'ose dire. Il y a toujours eu des prisons.
Il y a toujours eu des prisons. Il y a eu des accalmies à certains moments pour X motifs. Les critères sont nombreux, mais si on se réfère au XIXe siècle. En ce qui concerne Genève, voire même le canton de Vaud, là aussi on connaît des phénomènes de surpopulation.
On parlait d'irénisation. La Suisse, de manière générale, traite bien ses prisonniers?
Oui, oui, oui.
C'est une réponse très simple.
Très simple parce que c'est...
Parce que la surpopulation, c'est déjà une forme de péjoration des conditions de détention, non?
Oui, bien sûr. Maintenant, les commissions européennes qui exercent des contrôles dans les prisons critiquent évidemment la Suisse, mais elles critiquent également la France. L'Angleterre est un exemple à surtout ne pas suivre, où les prisons ont été privatisées. Là, c'est drame sur catastrophe qui suivent mois après mois. La Suisse, on peut dire, traite extrêmement bien ses détenus. Ouais. Il y a d'autres exemples en Europe. Les prisons espagnoles ont été pendant un certain moment un modèle en termes d'incarcération, d'encadrement des détenus. Mais là aussi, des réalités pour chaque pays sont différentes. La Hollande, par exemple, voit une chute du nombre de ses détenus pour plusieurs motifs. Et on va même jusqu'à louer des places à l'étranger pour des détenus.
Oui.
Et du coup, le nombre de détenus assez modeste permet des encadrements qui sont évidemment bien meilleurs qu'ailleurs. Mais je crois qu'en Suisse, les conditions de détention sont assez excellentes.
Et l'évasion, parce qu'évidemment, qui dit prison dit évasion. Chandelon, il n'y en a pas eu depuis 16 ans, sauf erreur. Comment vous l'expliquez, ça?
Alors, il n'y a pas eu d'évasion depuis le bâtiment de Chandelon, depuis un certain nombre d'années. Maintenant, il y a eu des évasions lors de sorties. Hein.
C'est ça.
On a un exemple très récent et assez dramatique.
Oui, qui s'est très mal terminé. Oui.
Alors, les raisons pour le manque, enfin l'absence d'évasion du bâtiment même, c'est qu'au fur et à mesure de l'histoire du bâtiment, c'est vrai pour les autres prisons en Suisse, c'est d'ailleurs vrai pour toutes les prisons, à chaque évasion, on pallie le ventre creux qui existait, qui a permis cette évasion, et on prend des nouvelles mesures de sécurité. Dès lors, sur le temps, les possibilités d'évasion se restreignent drastiquement.
Et on parle beaucoup des prisonniers, évidemment, ils sont en majorité. Et les gardiens, Christophe Villemier, c'est très important aussi de s'intéresser aux gardiens. Est-ce que les conditions d'exercice de leur métier ont changé à travers les âges? Est-ce qu'eux aussi sont bien traités de manière générale en Suisse?
Alors les gardiens, c'est évidemment un élément fondamental dans une prison, parce que lorsque vous rentrez dans une prison comme détenu, vous êtes à peu près sûr d'y en sortir au bout d'un temps donné. Tandis que gardien, vous y faites votre vie, hein, c'est votre profession, c'est votre carrière, vous y restez bien plus longtemps.
Les gardiens restent, les gardiens ne changent pas de profession, c'est une sorte de vocation.
Les gardiens peuvent évoluer, j'imagine, bien dans leur fonction au sein même de la prison, peuvent même changer de prison de temps en temps, mais c'est une vocation.
Est-ce que leur métier a de bonnes conditions aujourd'hui? On a l'impression que c'est plus difficile pour eux.
C'est plus difficile pour eux, évidemment, à cause de la surpopulation. Les conditions d'enfermement ont évolué parce qu'il y a plus de gens à gérer, parce que la courbe de progression du nombre de gardiens n'évolue pas forcément de manière symétrique à celle des détenus. Quand Saint-Antoine a fermé à Genève, l'ancienne prison, hein, on disait que les gardiens étaient très très proches des détenus, ils se tutoyaient, le gardien était à la fois le surveillant, mais également le psy,
l'éducateur,
le copain, l'éducateur, etc.
Bon, c'était après mai 68, c'était les années 70, on était dans ces années-là.
Ouais. Maintenant, tout ça, c'est des rôles qui ont baissé. Le gardien, en tout cas, dans un établissement comme Chandelon, c'est un fonctionnaire qui fait excellemment bien son travail. Je les ai côtoyés à plusieurs reprises. Les conditions ne sont pas évidemment très simples, avec des horaires qui sont difficiles aussi, mais ils ne peuvent plus avoir ce rapport qu'ils avaient jadis.
Les vis se sont un peu resserrées.
Exactement, exactement.
Et la philosophie, la vision de l'emprisonnement a beaucoup évolué, notamment depuis Foucault. On le cite pour la troisième fois dans cette émission, mais enfin, il faut le faire. Où est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Vous disiez la vision panoptique, on en est revenu. On est dans quel courant de pensée carcérale là aujourd'hui, et notamment en Suisse, Christophe Villemier?
Alors là, on peut voir des différences entre les régions linguistiques, un petit peu entre la Suisse alémanique, la Suisse romande. Vous savez qu'en Suisse, on a des concordats qui relient les différents cantons en matière de prison, dans d'autres matières également. En ce qui concerne la Suisse romande, la philosophie de l'enfermement, elle est assez humaniste, si on veut bien. Hein.
Plus qu'en Suisse alémanique?
Non, j'irai pas jusqu'à dire ça. Mais disons que, en matière de prison, comme dans d'autres manières, en Suisse alémanique, la discipline est peut-être un peu plus stricte. On peut pas se permettre des choses à Chandelon, par exemple, comme on peut les voir dans des prisons à Berne.
Très bien, ce qui correspond à certains clichés qu'on peut avoir les uns sur les autres.
C'est assez vrai.
Et est-ce qu'on va aussi de la société carcérale punitive vers une solution plus médico-psychique? On ouvre ce genre d'établissement aussi du côté de Genève. Est-ce que ça, c'est une tendance à noter et à commenter?
Alors, c'est une tendance qui n'est pas neuve, hein. J'entends, en 77, quand Chandelon a ouvert ses portes, on ouvrait la Pâquerette, le fameux établissement qui a fermé il y a quelques temps, qui s'inscrivait dans cette tendance.
Elle se renforce, cette tendance, en Suisse?
Je sais pas si elle se renforce. Genève a construit son établissement juste à côté de Chandelon, Curabilis, mm-hmm. pour l'évoquer. Mais ça faisait des décades qu'on attendait la création de cet établissement, puisque Genève s'était engagée à le construire auprès des autres cantons.
Et en Suisse alémanique, pour reprendre le distinguo plus ou moins humaniste, est-ce que ce type d'établissement existe en Suisse alémanique? Est-ce qu'il y en a certains qui sont en cours de projet?
Alors, en Suisse allemande, il existe une prison de ce type-là à Zurich, effectivement, qui encadre en fait les détenus qui sont placés sous sous mesure médicale, si on veut bien. Quant au projet en cours, ça, je ne peux pas vous répondre.
Pourquoi est-ce qu'on enferme les gens aujourd'hui, Christophe Villemier? C'est pour les punir, c'est pour les éduquer, les normaliser, pour reprendre les termes de Foucault. Pourquoi?
Il y a plusieurs critères. Il y a trois piliers, si on veut bien. Hein. Déjà, il y a le terme de punition qui nous vient d'une époque assez lointaine. Vous violez une norme sociale, vous commettez un délit, il est considéré juste et normal, vous soyez puni, que ce soit une amende ou en l'occurrence un enfermement. Et puis ensuite, c'est le danger que vous pouvez représenter. Donc on vous met à l'abri afin d'éviter que vous puissiez causer un danger pour votre prochain dans la société. Et puis le troisième pilier dont on parle un peu moins, qui nécessite beaucoup de moyens, c'est la réinsertion, si vous voulez, la probation. C'est permettre à celui qui a fauté de pouvoir fonctionner à nouveau dans un cadre social.
Et ça marche bien, ce troisième pilier?
Alors, ça marche bien, je sais pas. Je pense pas qu'on puisse dire que ça marche extrêmement bien, parce que les moyens sont quand même limités. La surpopulation ne fait que rajouter aux difficultés d'encadrement de ces personnes. Maintenant, les personnes qui travaillent dans les assistants sociaux, les éducateurs qui travaillent dans ce domaine-là font des efforts considérables. Le photographe qui a fait les photos pour mon livre, d'ailleurs, est éducateur social. On a pu en parler assez souvent. J'aimerais ajouter encore un critère à l'enfermement qu'on oublie souvent, qu'on omet souvent. Hein, c'est le sentiment de justice des victimes. Parce que ça, c'est un élément qu'on omet la plupart du temps. On parle que des détenus, mais les victimes aussi.
Ont besoin de ça pour se reconstruire.
Ont ce besoin de se reconstruire et ont besoin de récupérer une vision d'eux-mêmes et de sentir la justice faire son action.
Christophe Villemier, voilà pour les prisons, mais c'est un sujet qui n'est pas totalement éloigné. L'aéroport de Genève, Valérie Drou, veut que ses agents de sécurité puissent déceler la radicalisation de leurs collègues. Alors comment font-ils?
Oui, leur révélation du temps ce matin, une formation pour apprendre à identifier les comportements inquiétants tout en évitant tout acte de discrimination. Les inquiétudes autour d'une radicalisation de certains employés, c'est pas une nouveauté. À l'aéroport de Genève, il y avait eu des bagagistes soupçonnés de radicalisation, une salle de prière clandestine et la création d'un local à part pour le personnel féminin. L'idée est de trouver ici un équilibre entre une analyse exempte de préjugés, avec bon sens et clairvoyance, sans tomber non plus dans la délation. Quant au contenu du cours, et bien selon un participant enthousiasmé par cette formation, cité par Le Temps, le djihadisme, dit-il, est abordé à travers l'étude d'autres groupes violents aussi variés que les brigades rouges italiennes ou les séparatistes jurassiens du groupe Bélier.
Est-ce que ça vous inspire tout ça, Christophe Villemier? Vous avez un sourire?
Je ne sais pas si
les béliers, les djihadistes,
c'est un phénomène qu'on a aussi en prison, hein, la radicalisation. Et là aussi, des formations sont données pour lutter contre cette tendance.
Est-ce qu'on a des retours d'efficacité? Qu'est-ce que ça donne, ces formations-là?
Jusqu'à présent, en fait, c'était les aumôniers, plus particulièrement l'imam, qui s'occupait de cet aspect-là. Chandelon a connu un imam pendant des décennies, on peut dire, qui était quelqu'un d'extrêmement bien. Et qui décelait ces tendances à l'islamisation et qui les anticipait. Ils ont un travail de terrain, si on veut bien.
Et ça existe toujours, ça?
Ça existe toujours, mais l'imam a changé et le nouvel imam fait exactement le même travail. Maintenant, il faut lui laisser le temps aussi de prendre ses marques. Et à côté des aumôniers, à côté des imams, une formation est donnée à l'école romande pour les surveillants de prison qui se trouvent à Fribourg pour lutter contre ce phénomène.
Alors, il y a, à part ça, l'Amérique qui nous intéresse pas mal ces temps, et le Moyen-Orient, tout ça est lié. Et je sais que ce sont des sujets qui vous intéressent, Christophe Vuillemier. Une politique étrangère sans queue ni tête, l'actuelle crise dans la région du Golfe entre plusieurs pays arabes et le Qatar, Esther Coco, est une conséquence directe de la visite de M. Trump à Riyad.
Le premier voyage à l'étranger de Donald Trump s'est déroulé en Arabie Saoudite et ce n'est pas un hasard si des tensions éclatent dans cette région quelques semaines seulement après cette visite du président américain, écrit ce matin le Tages Insider. Officiellement, l'Arabie Saoudite et ses alliés accusent le Qatar de soutenir les organisations terroristes. Officieusement, c'est en fait une dispute pour l'hégémonie dans le Golfe. Donald Trump fait mine aujourd'hui d'être surpris par les événements. Il a juste dit que les idéologies radicales ne devaient plus être soutenues, s'est-il justifié hier sur Twitter, et tous se sont retournés contre le Qatar. Donald Trump semble avoir ignoré la réalité de la région, oublié aussi que le Qatar abrite la plus grosse base militaire américaine hors États-Unis. Ce sont 10 000 soldats américains qui sont stationnés sur place. Aujourd'hui, le Pentagone appelle à l'apaisement. Après avoir mis l'étincelle, Washington tente d'éteindre le feu. C'est la politique étrangère sans queue ni tête de Donald Trump.
Sans queue ni tête, vraiment ? Vous pensez qu'il n'y a pas un projet derrière, Christophe Vuillemier ?
Je ne suis pas dans les petits papiers de Washington, mais disons que lorsque l'on observe la politique étrangère, que ce soit au Proche-Orient ou bien en Corée, Donald Trump ne fait pas des étincelles, c'est le moins qu'on puisse dire.
C'est-à-dire qu'il n'a aucune idée sur la question, selon vous ?
Je pense qu'il met les pieds dans le plat assez souvent, oui.
Oui. Ouais.
Maintenant, est-ce qu'il a des idées sur la question ? Je ne sais pas.
Qu'est-ce que ça va donner, cette présidence ? Il va arriver jusqu'au bout ?
Espérons qu'elle soit brève. Maintenant, si les procédures d'impeachment parviennent à leur terme, nous aurons son vice-président qui prendra sa place. Je ne suis pas sûr que ce soit mieux.
C'est un commentaire à l'envers. Merci beaucoup Christophe Vuillemier d'avoir été notre invité. Vous êtes donc historien et vous publiez avec le dessinateur de presse Patrick Tondeux ce nouvel ouvrage sur la prison de Chandelan qui fête, on peut dire fêter ses 40 ans d'existence.